Vous écoutez On lit pour vous.
Combien ça gagne une famille d'accueil? Un texte de Charlotte Glorieux, paru le 14 mai 2025 dans Urbania. Pardonnez-moi d'être aussi directe, mais voulez-vous des enfants? Peut-être est-ce votre vœu le plus cher depuis votre plus tendre enfance, ou c'est peut-être le désastre climatique imminent qui guette notre planète qui vous a découragé? Sinon, le coût de la vie, du loyer et du morceau de parmesan à l'épicerie ont-ils eu raison de vos ardeurs? Parce qu'avoir un enfant n'est pas sans ses coûts. Selon une étude de Statistique Canada, en 2023, le ménage québécois moyen devait débourser 17 235 par enfant par année. Au total, cela revient à 293 000 $ de l'enfance jusqu'à la majorité. En 2024, d'après le site de planification financière Hard Bacon, ce chiffre aurait augmenté pour atteindre environ 400 000 $. Avec de tels chiffres, ne serait-ce pas fabuleux de bénéficier d'un salaire permettant d'élever son petit bout de chou adéquatement? Et si on vous disait que certains parents reçoivent de l'argent pour s'occuper d'un enfant? C'est le cas des familles d'accueil qui ont fait le choix d'ouvrir leurs portes et leur cœur aux enfants des autres. La question se pose, une famille d'accueil, combien ça gagne? La vocation avant l'argent. Au Québec, le salaire d'une famille d'accueil dépend de plusieurs facteurs. Pour chaque enfant, on fait une classification dépendant des services qu'on a à lui rendre. Plus on rend de services, plus la rétribution sera élevée, explique Mélanie Gagnon, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, FFARIQ. Selon le site du gouvernement du Canada, au Québec, le salaire horaire pour un parent de famille d'accueil se situe entre 15 $75 et 25 $28, ce qui équivaut annuellement à environ 39 000 $. L'aspect monétaire peut-il encourager certains à faire ce don de soi? Selon Mélanie Gagnon, qui est aussi parent d'accueil depuis 23 ans, la réponse est sans équivoque. Être famille d'accueil, on ne le fait pas pour l'argent. D'ailleurs, elle est plutôt mal à l'aise de parler de rémunération lorsqu'il est question d'un enfant. Pour elle, ce n'est pas un emploi, c'est une vocation. Et surtout, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faire don de soi. Quand Mélanie Gagnon a décidé de devenir famille d'accueil, elle était déjà maman d'une fille de 2 ans et demi et un fils d'un an. Elle rêvait d'une grande famille. Je me disais, 3 enfants, c'est grand. Le choix de devenir famille d'accueil lui est alors apparu comme une évidence. Ma belle-mère était famille d'accueil et j'ai dû m'occuper de jeunes personnes dans ma famille. Je me suis dit, tant qu'à déjà le faire, je suis aussi bien de le faire pour les autres. C'est ainsi qu'elle est devenue mère à la maison à temps plein pour s'occuper de ses enfants et de ceux des autres, ses petits cocos, comme elle les appelle affectueusement. Aujourd'hui, elle est toujours famille d'accueil et a même adopté 2 des enfants qu'elle accueillait chez elle, faisant grimper le nombre de membres de sa grande famille à 5 enfants. En 23 ans, elle estime avoir accueilli près de 106 enfants chez elle. À une certaine époque, j'avais 6 enfants en famille d'accueil. J'avais donc 11 enfants à la maison. Elle a même gardé contact avec certains d'entre eux. Quelques-uns sont venus me présenter leurs enfants. un lien quasi charnel. Pour Mélanie, le lien biologique ne se limite pas à ses enfants. J'ai présentement deux sœurs. Ça fait 9 ans que je les ai. Pour moi, c'est mes filles. Elles m'appellent Mamou. Et ce lien se propage aussi chez les autres membres de la famille Gagnon. Mon fils, c'est leur grand frère, et ma fille, c'est leur grande sœur. Et lorsque Mélanie a voulu adopter sa dernière fille, elle affirme que le choix a été fait en famille. On a demandé aux enfants, parce que le choix les impactait aussi. Passer de 4 à 5 enfants, c'est des coûts supplémentaires. Qu'est-ce qui explique cette fusion au sein de cette famille? Pour répondre à ma question, Mélanie évoque un jeune qu'elle a accueilli alors qu'elle avait 15 ans. Je l'ai eu pendant des années et j'ai développé avec lui un lien presque aussi fort qu'avec mes enfants. Cet enfant-là est venu me chercher dans mon fort intérieur, malgré ses difficultés. Mélanie ne cherche surtout pas à cacher que ces petits cocos sont des enfants en problème. Elle évoque la consommation des parents de certains, la souffrance des autres. Il y en a qui se font battre. Pour Mélanie, offrir un havre de paix est primordial pour ces petits cocos. Le mal de l'enfance. Le CU3SCN, Recrutement Jeunesse, rend disponible des mises en situation, histoire de bien préparer le futur parent d'accueil. On peut y lire l'histoire d'un enfant d'un mois, en sevrage de drogue, de 3 enfants ayant été témoins de la violence conjugale et d'une enfant ayant été en situation d'itinérance. Des cas de figure malheureusement bien réels. Les enfants que j'accueille ont souvent vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Ils ont des problèmes de santé mentale. Mélanie explique qu'en étant famille d'accueil, il faut accueillir tout de l'enfant, incluant son histoire. Quand un enfant te raconte avoir été victime d'abus sexuels, tu ne peux pas t'écraser en pleurant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me contentais d'écouter l'enfant. Et quand il avait fini, je m'enfermais dans ma chambre et j'éclatais en sanglots. Mélanie souligne que la FFARIQ peut devenir un lieu de réconfort et de soutien. On y offre de l'écoute active. Si une famille vient me voir et me confie avoir de la misère, je leur demande s'ils ont fait appel à leur service. Entre familles d'accueil, on échange beaucoup. Pensez les plaies. Si l'on revient au salaire annuel médian des familles d'accueil, il serait important de contrebalancer ce montant en évoquant les difficultés des enfants accueillis, puisque celles-ci dépassent parfois les capacités des familles d'accueil. Au Québec, les centres jeunesse sont en crise. Ils n'arrivent pas à fournir le suivi dont ces enfants-là ont besoin. Bien que les enfants placés en famille d'accueil soient légalement la responsabilité de l'État, ce sont souvent les familles d'accueil qui doivent payer de leur poche les coûts reliés aux besoins de l'enfant. À ce sujet, Mélanie s'insurge. Quand ça les arrange, c'est nos enfants. Malgré tout, elle insiste que les familles d'accueil, on ne regarde pas ça, l'argent, et on donne le soin à l'enfant qui en a besoin. Elle évoque le cas d'une famille d'accueil qui avait la charge d'un enfant de 3 ans ayant besoin d'un orthophoniste. Un orthophoniste au public, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans d'attente. Le petit allait commencer l'école avec un retard de langage sévère. La famille d'accueil a donc décidé d'aller au privé et de payer de sa poche. Malgré tout, Mélanie demeure optimiste. Une famille d'accueil, c'est une famille de cœur. Même quand tu vis des moments difficiles, tu te concentres sur les petites réussites, même si elles sont très petites. Tu as quand même fait un changement positif dans la vie de cet enfant-là. C'était « Combien ça gagne une famille d'accueil? » Un texte de Charlotte Glorieux, paru le 14 mai 2025 dans Urbania.
Le milliardaire qui livre la bataille de sa vie contre Trump, un texte de Marco Fortier paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. C'est un milliardaire de 60 ans issu d'une illustre famille de Chicago. Il invite les Américains à livrer une bataille de tous les instants contre Donald Trump. J.B. Pritzker, gouverneur de l'Illinois, est considéré comme un aspirant sérieux à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de 2028. Les Canadiens, y compris au Québec, devraient surveiller la montée de ce personnage influent qui se décrit comme un allié de ses voisins du Nord. J.B. Pritzker fait les manchettes aux États-Unis pour ses critiques bien senties contre le gouvernement Trump, mais il est aussi connu de ce côté-ci de la frontière. Il est passé par Montréal et Toronto il y a un peu moins d'un an, en juin 2024, pour célébrer la relation historique entre le Canada et son puissant voisin. Les participants à la conférence de Montréal se souviennent d'un élu américain qui se trouve aux antipodes de Trump. Il était venu parler de ses efforts pour bâtir une économie verte. Vous pourriez dire que nous nous inspirons du Canada, avait-il lancé aux gens d'affaires venus assister à sa conférence à Toronto la veille. Le gouverneur avait souligné les politiques qu'il a mises en place en faveur de l'avortement, de la diversité et des droits des personnes LGBTQ+. Il aurait pu ajouter la hausse du salaire minimum et la légalisation du cannabis. La chaîne hôtelière Hyatt, qui appartient à sa famille, est aussi une des rares aux États-Unis où les employés sont syndiqués. Le gouverneur et homme d'affaires avaient rappelé que l'Illinois est le plus grand importateur de biens et services canadiens parmi les États américains. Les échanges commerciaux entre l'État frontalier et son voisin du Nord s'élevaient à 92 milliards de dollars américains en 2022, et 370 entreprises canadiennes donnent du travail à 32 000 personnes en Illinois. En croisade contre Trump. Dès son élection au poste de gouverneur, en 2018, J.B. Pritzker s'est imposé comme un des plus féroces opposants de Donald Trump. C'est la bataille de sa vie. Il se démarque aussi par sa ténacité depuis le retour au pouvoir de l'ex-animateur de télé-réalité en janvier 2025. Tétanisé devant l'avalanche de décrets présidentiels signés par Trump, les démocrates sont divisés sur la stratégie à déployer contre l'occupant de la Maison-Blanche. Le gouverneur Pritzker a secoué ses collègues avec un discours enflammé le mois dernier lors d'un événement du Parti démocrate au New Hampshire, un État symbolique qui tient la première primaire en vue de l'élection présidentielle. « Nous devons mener une bataille de tous les instants contre les gestes antidémocratiques du mouvement MAGA, Make America Great Again », a-t-il lancé en dénonçant la tiédeur des démocrates face aux tyrans au pouvoir à Washington. Ces républicains ne doivent pas avoir un moment de paix, a-t-il poursuivi. Je n'ai jamais appelé de toute ma vie à faire des manifestations ou des activités de perturbation, mais là, je le fais. Un personnage incontournable. John Mark Hansen, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, suit depuis longtemps les activités de J.B. Pritzker en tant que personnalité publique. Nommé J. Robert Pritzker en l'honneur de deux de ses oncles, il se fait appeler J.B. pour J. Bob. Né en Californie de parents juifs d'origine ukrainienne, ce politicien grassouillet, au visage rond, est un gars brillant, souligne le professeur. Il dit ce qu'il pense et il assume ses décisions. Cela plaît à beaucoup de monde, dit John Mark Hansen. J.B. Pritzker fait partie des élus qui ont contribué à libérer les critiques contre l'occupant de la Maison-Blanche. Il y a 2 mois, tout le monde attendait de voir ce que ferait Trump. Ceux qui sortaient la tête de leur terrier pouvaient devenir une cible. Mais maintenant que le taux d'approbation du président a baissé, on voit de plus en plus de démocrates et même certains républicains prêts à le critiquer, analyse le professeur. La fortune personnelle de Pritzker, évaluée à 3,7 milliards de dollars américains, lui donne une indépendance certaine. Il a investi 171,5 millions de dollars dans sa campagne victorieuse au poste de gouverneur. Pritzker est issu d'une des familles les plus importantes d'Illinois, qui a sans doute plus d'influence à Chicago que celle de Trump à New York, estime John Mark Hansen. Son statut de gouverneur d'un État majeur comme l'Illinois, le 6e pour sa population et le 5e pour la taille de son économie, accorde aussi une influence indéniable à Pritzker, remarque le professeur. Barack Obama, qui était sénateur en Illinois avant de remporter la présidence, a bénéficié du soutien de son richissime concitoyen. Populiste de gauche. L'aspirant président doit désormais se faire connaître sur le plan national. John Mark Hansen estime que la confession juive de Pritzker peut représenter un obstacle pour une partie de l'électorat. Il rappelle que le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, pressenti comme coulistier de Kamala Harris, a été écarté en partie à cause de son identité juive. Pritzker peut sans doute remporter l'investiture du Parti démocrate, mais pour gagner la présidence, il doit obtenir l'adhésion des 6 % d'électeurs indépendants ou modérés. Les élections présidentielles américaines se remportent au centre, rappelle le professeur. Christophe Cloutier-Roy, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, estime que le gouverneur de l'Illinois peut incarner le renouveau au sein du Parti démocrate, même en tant qu'homme blanc de 60 ans, milliardaire de surcroît. Il est progressiste, mais plus rassembleur que Bernie Sanders ou AOC, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, deux têtes d'affiche de la gauche américaine qui attirent les foules avec leur tournée nationale contre Trump, résume le spécialiste de la politique américaine. Le chercheur décrit Pritzker comme un populiste de gauche qui sait parler aux électeurs, notamment les cols bleus de la classe moyenne, dont plusieurs sont séduits par les promesses de Trump, dans un style direct et accessible. Il a aussi mis de l'ordre dans les finances de l'État, ce qui est susceptible de plaire aux électeurs centristes. Les experts s'entendent pour dire que Pritzker est un réel allié du Canada. En dirigeant un État frontalier et riverain des Grands Lacs, le gouverneur connaît très bien la valeur de la coopération avec le Canada, dit le professeur John Mark Hansen de l'Université de Chicago. On peut même dire que le Canada jouit d'un énorme soutien aux États-Unis. Une bonne partie des gens qui parlent contre le Canada ne font que répéter les propos de Trump. Même les républicains disent en privé que la façon dont Trump se comporte envers le Canada, c'est de la folie. C'était « Le milliardaire qui livre la bataille de sa vie contre Trump », un texte de Marco Fortier paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
L'empathie, selon Florence Lompré. Un texte de Benoît Lelièvre paru le 9 avril 2025 dans Urbania. Une nouvelle série qui fait passer le discours culturel sur la santé mentale à un autre niveau. Les choses vont bien pour Florence Lompré, très bien même. Depuis déjà quelques années, l'autrice, scénariste et comédienne enchaîne les succès. Le tout a débuté en 2018 avec la série « M'entends-tu ?». déjà considéré comme culte, suivi en 2022 par Le Temps des framboises, coécrite avec Suzy Bouchard et Audrey est revenue, celle-ci coécrite avec Guillaume Lambert et récipiendaire de 2 prix au prestigieux festival Cannes Série en 2022. C'est certain que ça me donne beaucoup de confiance quand ça va bien comme ça, beaucoup de liberté aussi. Les budgets viennent avec. Les diffuseurs me font confiance, raconte la principale intéressée, non sans une pointe de fierté dans le regard. À quelques jours de la diffusion des 2 premiers épisodes d'Empathie, sa nouvelle série, le grondement de l'anticipation se fait déjà entendre. Il s'agit d'un projet d'envergure qui cherche à explorer la vie des gens gravitant autour des hôpitaux carcéraux comme par exemple l'Institut Philippe Pinel. À peu près tout le monde s'entend pour dire qu'on parle trop peu de santé mentale. Sans doute parce que c'est un sujet difficile et souvent pas très beau à aborder. Personne n'ose trop se risquer, de peur d'avoir l'air insensible ou d'encourager les préjugés qui subsistent autour de la question. Mais Florence Lompré a décidé de relever le défi avec Empathie. Une série qui est tout sauf facile. Le résultat est confrontant, dérangeant et ne recule pas devant le portrait de personnes institutionnalisées ayant commis l'irréparable. Empathie vous plonge au cœur d'un désespoir plus grand et douloureux que celui auquel la majorité d'entre nous a déjà fait l'expérience, à travers la bienveillance de sa protagoniste Suzanne, interprétée par Lompré elle-même, qui s'intéresse à la souffrance plutôt qu'au crime et à la personne, plutôt qu'à ses gestes. Une cordonnière trop bien chaussée. Empathie raconte l'histoire de Suzanne Bien-Aimée, une jeune femme obscènement bien éduquée qui accepte un poste de psychiatre dans une aile particulièrement volatile d'un hôpital psychiatrique carcéral à la suite d'un mystérieux congé de maladie de 2 ans. Le hic, c'est que Suzanne n'est pas du tout prête à revenir au travail et abuse de l'alcool pour gérer son désespoir. Malgré tout, elle plonge avec toute la bonne foi qui lui reste et parvient même à trouver des patients qu'elle peut guider vers la lumière, après avoir elle-même passé à travers sa propre tempête intérieure. Sur place, elle fait aussi la rencontre de Mortimer, l'humoriste français Thomas Gijol, un intervenant qui deviendra son binôme et un allié qui miroite ses propres progrès en plus de l'accompagner dans sa guérison. Empathie se montre à la hauteur de la simplicité de son titre en mettant en scène bien plus que des interventions cliniques auprès des cas désespérés. La série pose un regard bienveillant sur des gens dont on préférerait détourner le regard. On y voit à la fois des gestes d'une violence inouïe, mais aussi la souffrance causée par la maladie. La magie d'Empathie opère parfois dans les performances individuelles. Accrochez-vous, Benoît Brière y est stratosphérique. Et non, ce n'est pas une phrase que j'aurais cru écrire dans ma carrière, et parfois à travers un symbolisme touchant et nuancé. Lompré et son complice de longue date, le réalisateur Guillaume Lonergan, utilisent notamment la présence de ballerines, toutes de noir vêtues, pour illustrer la dualité entre la force et la fragilité de Suzanne. La musique y joue aussi un rôle essentiel. J'écris beaucoup avec la musique en tête. C'est comme un autre personnage pour moi. On a aussi travaillé avec le compositeur Simon Léosa, qui a fait un travail fantastique, explique Lompré. De Florence vers Suzanne. Si Empathie résonne comme un coup de canon, c'est parce que Florence Lompré a puisé à même sa propre douleur au moment de l'écriture. L'autrice m'explique avoir elle-même vécu une longue dépression suite au décès de sa mère, il y a plusieurs années, et que de retourner à cette période de sa vie a été très précieux pour elle. J'ai vécu beaucoup de honte. C'était un plaisir personnel de pouvoir en parler, a-t-elle confié. Lompré a également bénéficié de l'aide de deux psychiatres de l'Institut Philippe Pinel pour insuffler du réalisme à son scénario, les docteurs Gilles Chamberlain et Marie-Michèle Boulanger. D'ailleurs, comme Suzanne, cette dernière est elle-même nouvelle dans ses fonctions. Quand je leur ai envoyé le scénario, je pensais qu'ils allaient simplement me donner des notes sur les scènes cliniques, mais ils ont pris le temps de psychanalyser tout le monde en profondeur. Je devrais tellement travailler encore avec des psychiatres sur mon prochain projet. C'était super intéressant, raconte Florence Lompré. Portée par une longue série de succès, la créatrice multitalentueuse ne ressent toutefois pas de pression lorsque vient le moment de créer. Du moins, pas encore. C'est tellement compliqué de faire une série qu'à un moment donné, je pense plus à ça et je veux simplement qu'elle existe. J'ai jamais été paralysée par la pression, mais je sais que ça pourrait arriver, confie-t-elle. L'art le plus transformatif et celui qui vient d'un besoin intérieur et d'une vision intime. C'est en montrant les émotions dans tout ce qu'elles ont de plus authentique que l'on parvient à rejoindre le public. C'est un partage d'expériences et d'émotions qui s'opère à un niveau intuitif par l'entremise d'une allégorie. Empathie est on ne peut plus près de son autrice, et c'est grâce à ça qu'elle arrivera à vous rejoindre. J'ai développé de l'empathie envers moi-même en jouant Suzanne. Je suis devenue plus douce avec moi-même en portant sa tristesse à elle, conclut Lompré. Étant moi-même intervenant bénévole en santé mentale à mes heures, j'ai trouvé que la détresse telle qu'on la voit dans la série est très plausible. La bienveillance de Suzanne et son pouvoir transformateur le sont aussi. Empathie vous inspirera à donner un peu plus d'amour à votre prochain parce que, ben, ça fonctionne. Plus vous vous éduquez sur la souffrance de vos proches, plus vous arriverez à la voir pour ce qu'elle est. Les deux premiers épisodes d'Empathie débarquent ce jeudi sur Crave. En plus de découvrir votre nouvelle série favorite, vous trouverez sans doute un peu de douceur pour vous aussi. C'était « L'empathie », selon Florence Lompré, un texte de Benoît Lelièvre paru le 9 avril 2025 dans Urbania.